Il est 18h30 à Paris. Tout de suite, vous retrouvez Romain Ozoui. C'est l'heure du débat ce soir sur RFI.
Merci Véronique. Et dans ce débat, on va parler climat et démocratie. On va parler aussi des États-Unis, évidemment. Merci.
Le débat du jour. Romain Ozoui.
Et on va commencer par ces images qui ont interpellé la reine Laetitia d'Espagne recevant de la boue, se faisant insulter, tout comme le roi et le Premier ministre Pedro Sanchez, traités tous d'assassins venus sur les lieux des inondations meurtrières dans la région de Valence qui ont fait plus de 200 morts. Le cortège s'est vu accusé d'avoir sous-estimé la menace climatique au nom des autorités espagnoles, car ces autorités ont réagi trop tardivement aux alertes des agences météo. Des critiques qui, ces derniers mois, ont visé d'autres puissances, la France, on peut citer l'Allemagne. Et dans ce contexte, évidemment, la question se pose aux États-Unis après l'élection du climato-sceptique Donald Trump à la Maison-Blanche. Notre question ce soir, les catastrophes climatiques menacent-elles les démocraties? Comment parler de démocratie à propos d'un pays qui ne prend pas les mesures nécessaires pour s'adapter au changement climatique? Comment concilier action écologique et justice sociale? Eh bien, soyez les bienvenus dans le débat du jour. Et pour répondre à ces questions, nos invités à mes côtés en studio, Lucille Schmitz, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes essayiste, cofondatrice du think tank La Fabrique écologique. Notre deuxième invité en ligne avec nous, Nathanaël Vallenhorst, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur à l'Université catholique de l'Ouest, docteur en sciences de l'environnement et de l'éducation. Vous avez rédigé plusieurs ouvrages. Je peux citer « Qui sauvera la planète ?». Ça, c'est une bonne question. Et puis, vous allez l'année prochaine lancer une collection chez Actes Sud intitulée « Système, terre, climat, biosphère, société ». Merci beaucoup à vous deux. En attendant notre troisième invité, Yamina Saeb, qui ne devrait pas tarder à arriver. En tout cas, je vous remercie d'avoir accepté cette invitation sur RFI. Et pour commencer, Lucille Schmitz, je voudrais vous demander quelle définition vous donnez à la démocratie. Je trouve que ça permet de bien camper le décor de ce débat et de voir finalement à quel point cette notion, cette définition, est capable de se confronter au changement climatique.
Oui, alors je vais peut-être donner une définition un peu subjective, mais en tout cas pour moi, la démocratie, ça ne se réduit pas aux élections. Et il y a différents types de démocratie. Il y a la démocratie représentative à laquelle nous sommes habitués, dans laquelle le peuple délègue à un certain nombre de représentants élus son pouvoir de réflexion, de délibération, de décision. Il y a aussi, vous savez, ce qu'on appelle la démocratie participative, où régulièrement les élus se confrontent au peuple, discutent, débattent avec ce peuple, qui est on peut dire qu'il est complémentaire de la démocratie représentative. Et puis il y a ce qu'on appelle aussi la démocratie délibérative. Et la Convention citoyenne pour le climat, qui a eu lieu il y a maintenant 3 ans en France, est un exemple de la façon dont on peut, autour d'un sujet qui était justement le sujet climatique, avec des citoyens tirés au sort, demander à des citoyens qui sont des citoyens qui ne sont pas des experts de réfléchir, de discuter, de délibérer et de décider sur des sujets qui sont des sujets complexes. Donc la démocratie, pour moi, ça ne se réduit pas aux élections.
Bien sûr.
Et il me semble aussi qu'à travers ces 3 définitions, on peut se dire que la démocratie, ça existe à travers une vie démocratique et que, y compris dans la démocratie représentative, le fait que les élus se confrontent au peuple, se confronte à l'évolution de la réalité, à la complexité qui est celle liée à l'urgence écologique. Ça fait partie de leur responsabilité. Il me semble que l'exemple espagnol que vous avez donné est un magnifique exemple de la façon dont les élus n'ont pas l'habitude de se confronter aux transformations du réel et à la façon dont ils doivent prendre en charge cette responsabilité par rapport à la transformation du réel.
Et donc les autorités espagnoles ont failli à leur responsabilité et de fait, est-ce qu'elles sont discréditées en tant que démocratie ?
Écoutez, je pense qu'elles ont failli à leur responsabilité au sens où l'alerte météo était claire.
Ouais.
Et où, en fait, c'est seulement en fin de journée, alors que l'alerte existait depuis la matinée, qu'elle a été donnée, en fait, à la population. Et on voit bien qu'il y a eu une sorte d'arbitrage implicite, sans doute inconscient d'une certaine manière, entre vie économique, vie as usual, ça se passe comme d'habitude, et la réalité de l'alerte. Donc il y a une difficulté des élus, d'un certain nombre de politiciens, on va employer le terme, en fait à prendre en considération ce qui relève de l'alerte scientifique, ce qui relève de quelque chose qui dérange le quotidien. Et puis il y a une deuxième chose sur laquelle il y a eu faillite à mon sens, c'est sur l'articulation entre les autorités régionales et l'État fédéral, puisque vous savez que l'Espagne n'est pas un État jacobin, qu'il y a un problème de pouvoir régional et de pouvoir, de lien entre pouvoir régional et national, qu'en plus il y avait un sujet, je dirais, de conflictualité, c'est pas les mêmes familles politiques dans les deux cas, entre le gouvernement socialiste et une région gouvernée par les conservateurs. Et donc il y a eu aussi une faillite entre ceux qui étaient élus, parce que d'une certaine façon ils se sont renvoyés la responsabilité d'agir en premier.
Ah, bonsoir.
Ça fait deux faillites.
Ouais, bonsoir Yamina Saeb.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous, donc notre troisième invité. Je crois qu'il y avait des bouchons pour venir dans Paris aujourd'hui. Experte internationale des politiques d'atténuation du changement climatique au cabinet d'études OpenExp, enseignante à Sciences Po Paris. Vous êtes une des auteurs du rapport du GIEC sur l'atténuation du changement climatique. Donc on a campé le décor sur la définition finalement d'une démocratie, puisqu'on va voir à quel point est-ce que on peut parler de démocratie dans l'adaptation au changement climatique. Est-ce que les démocraties aujourd'hui s'adaptent selon vous suffisamment au changement climatique, et en cela est-ce qu'elles portent bien leur nom de démocratie pour vous ?
Ah non, on peut. Pour moi, la crise climatique est une crise des démocraties, en fait. C'est parce qu'il y a crise des démocraties que nous avons la crise climatique et que nous n'arrivons pas à la résoudre, surtout. Parce que, en fait, lorsqu'on regarde qu'est-ce qui fait la crise climatique, c'est qu'il y a eu une accumulation des gaz à effet de serre dans les pays industrialisés. Et la plupart de ces pays-là, pas tous, mais la plupart de ces pays-là sont les démocraties. Et d'abord, on refuse d'assumer cette responsabilité historique. Et puis, pour résoudre ce problème-là, pour avancer, eh ben, les démocraties, jusqu'à présent, ont failli de ce point de vue-là. Et je pense que on ne pourra pas résoudre la crise climatique et la crise écologique sans avoir au préalable soigné nos démocraties. Donc il faut d'abord guérir nos démocraties qui sont malades. Alors c'est pas tout à fait les mêmes maladies en France, aux États-Unis, en Allemagne, etc. Mais toutes les démocraties en fait sont malades aujourd'hui, les démocraties occidentales. Et sans soigner ces démocraties, si on n'arrive pas à soigner ces démocraties-là, il est peu probable qu'on puisse résoudre la crise écologique.
Nathanaël Vallenhorst, on ne nous a pas encore entendu. Est-ce que pour vous, vous voyez de la manière ce lien de cause à effet qui est très intéressant entre crise climatique et crise démocratique ? Est-ce qu'une démocratie peut ne pas être en crise alors qu'il y a une crise climatique ?
Ce que je trouve particulièrement marquant, en fait, quand je parle avec les étudiants des questions climatiques, des écosystèmes de la biosphère, et puis globalement du système Terre, et puis de l'emballement aujourd'hui que connaît le système Terre, assez rapidement, il y a quelqu'un dans l'amphi qui dit, qui interroge les démocraties, en fait, qui se dit, mais en fait, on a un problème du côté des démocraties. Puis très vite, on a quelqu'un qui dit, mais est-ce qu'il ne faudrait pas une petite dictature ou une dictature verte à la chinoise ? Et puis de l'autre côté, il y a quelqu'un qui dit insurrection, révolution, est-ce qu'il ne faudrait pas tout faire péter finalement ? Et dans les deux cas, la violence peut apparaître comme un moyen légitime de l'action, quoi. Et ce que je trouve particulièrement marquant derrière, c'est combien l'idée de démocratie, pour l'instant, a été indissociablement liée à la liberté. La démocratie, c'est quoi ? C'est ce que je fais quand je veux, voilà, à part deux, trois petits trucs, j'ai pas le droit de tuer, ou voilà, deux, trois choses comme ça, mais fondamentalement, c'est la liberté. Et puis, identifiant le problème, en fait, de cette dimension complètement libérale de nos démocraties, il y a la tentation qui arrive très vite, en fait, de dire, tiens, est-ce qu'il ne faudrait pas essayer autre chose ? Est-ce qu'il ne faudrait pas en sortir ? Et ce que je trouve marquant, c'est de voir que l'idée de démocratie a des racines pas si profondes que ça, d'une certaine façon. Alors, quand on creuse un peu derrière, bien rares sont les étudiants qui appellent vraiment un État totalitaire, une dictature, etc. Mais ils veulent souligner, en tout cas, la nécessité de réarticuler dans nos démocraties la liberté avec la notion de limite, pour avoir des démocraties qui puissent s'encastrer dans les limites du système Terre tel qu'il est aujourd'hui.
Ça c'est intéressant comme lecture, puisqu'on pose la question ce soir pour savoir si les catastrophes climatiques menacent les démocraties, mais c'est est-ce que les démocraties peuvent répondre à la crise climatique, Lucille Schmitt, est-ce que finalement il faut choisir entre action climatique et démocratie, partant de ce principe que démocratie égale liberté. Eh ben, si démocratie égale liberté, on ne peut pas se voir imposer des décisions radicales que les experts du climat appellent à prendre.
Pour moi, démocratie égale contrat social, donc ça ne signifie pas liberté. Voilà. Et par ailleurs, la délibération, et elle implique une responsabilité particulière des dirigeants par rapport au peuple. Et donc la question, c'est au fond de rediscuter de ce qu'on appelle liberté. C'est-à-dire que lorsqu'on discute effectivement avec les étudiants, ce qui nous arrive à tous les trois, en fait, on voit qu'il y a souvent cette confusion entre une dictature serait mieux qu'une démocratie, parce que comme ils ont souvent une définition de la démocratie qui n'est pas claire, et ils ont souvent une définition de la dictature... ils ne l'ont pas expérimenté, voilà, on va le dire. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais vécu en Chine, ils n'ont jamais vécu sous un régime autoritaire, et donc ils peuvent, d'une certaine manière, idéaliser la dictature parce qu'ils pensent que la dictature, c'est la décision. Mmh. Et au fond, ce qu'ils reprochent actuellement aux dirigeants, et ce n'est pas le régime démocratique qui est en cause, c'est les dirigeants qui sont au pouvoir dans ces démocraties qui sont les nôtres, c'est de ne pas décider. Donc ce qu'ils leur reprochent, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'irresponsabilité. Mais donc, comme le disait Yamina Saeb très justement, le sujet, c'est de rediscuter du contenu du contrat social, donc de soigner la démocratie, je ne sais pas si je vais employer le terme de soigner, mais en tout cas, de lui redonner une vie, voilà. Puisque pour l'instant, il me semble qu'elle est à la fois elle est en dépression nerveuse, la démocratie, et qu'à partir du moment où on rediscute, ce qu'on appelle liberté va être rediscuté. Vous savez, à un moment, Emmanuel Macron avait eu l'idée qu'on pourrait inscrire dans l'article 1er de la Constitution les limites planétaires dont parlait à l'instant l'autre intervenant. Et en fait, ça n'a pas été possible, mais il y a eu surtout cette prise de position du président du Sénat qui a dit « Mais non, mais ça irait contre la liberté économique. Mmh. » Eh bien, il faut rediscuter de ce qu'on appelle la liberté économique et peut-être faire et certainement même faire une hiérarchie entre libertés et imaginer ce que seront les libertés dans le futur quand on ne pourra plus habiter une grande partie de la Terre, lorsqu'il y aura des centaines de millions de migrants climatiques.
Le Covid aussi a montré que les démocraties étaient capables de prendre des décisions radicales, des décisions autoritaires. Yassine Saeb.
Mais il a fallu attendre d'être dos au mur pour arriver, parce qu'on aurait pu éviter, on aurait pu traiter la crise du Covid autrement que le confinement, etc., d'après les experts médicaux.
Donc ça peut pas s'adapter à la crise écologique?
Non, parce que en fait, la crise du Covid, c'est une crise qui a duré un certain temps. La crise écologique, c'est une crise qu'on va se traîner sur plusieurs générations, sur plusieurs siècles. On va pas revenir à la planète Terre, ne va pas revenir à la situation où elle était avant. Et justement, quand je dis que la démocratie est malade, c'est justement ce qu'il nous faudrait, c'est rediscuter ce contrat social que nous avons et qui est sous l'égide de la démocratie. Et quand on parle de la question de liberté, je pose souvent la question aux étudiants, je leur dis est-ce que quand vous êtes à côté d'un feu rouge, quand il y a un feu rouge, est-ce que vous vous arrêtez ou pas? Ils disent tous, mais bien sûr. Je dis, ça porte atteinte à votre liberté. En fait, c'est un logiciel derrière, aujourd'hui, j'imagine, qui décide à quel moment on doit s'arrêter. Et pourtant, c'est ancré dans notre éducation. On ne remet pas ça en question. Et c'est exactement la même chose avec la question des limites planétaires. C'est juste qu'on n'arrive pas à le visualiser. Parce que ce qu'on m'explique pour le feu rouge, les étudiants me disent « Oui, mais le feu rouge, si je traverse, il y a une voiture qui passe, elle va m'écraser. » Oui, mais en dépassant les limites planétaires, on va rendre la planète inhabitable. Et à ce moment-là, ça ne sera plus une question de... ça sera plus une question de discuter la liberté. C'est aujourd'hui, la vraie question, c'est comment garder la planète Terre habitable pour la majorité d'entre nous. Parce qu'en fait, on est dans des situations... La crise écologique a atteint un niveau qu'on est plutôt dans une situation de damage control. On ne va pas retourner en arrière... Donc en fait, c'est éviter ce qui s'est passé, par exemple, à Valence. Il faudrait que ça soit la dernière fois que ça se produit en Europe, par exemple.
Donc c'est qu'un manque de volonté politique. Ce que vous me dites, finalement, c'est que les populations sont prêtes à se voir à imposer des décisions importantes au nom de l'environnement.
Ce n'est pas imposé dans une démocratie.
Non, mais vous citiez le feu rouge et le feu vert, c'est intéressant. Ouais. Ça montre que finalement, c'est très relatif. La décision qui est imposée à autrui et que les habitants peuvent accepter ces décisions-là.
On l'a vu, par exemple.
C'est pas selon eux, je termine juste ma phrase, d'augure à menacer la démocratie.
Non. Alors, on l'a vu, par exemple, ce que j'ai bien aimé avec la Convention citoyenne pour le climat, moi j'ai longtemps travaillé sur la rénovation énergétique des bâtiments et j'étais arrivée à la conclusion que la seule façon de rénover le stock du bâtiment, ça serait de rendre la rénovation énergétique obligatoire et de changer comment est-ce qu'on finance la rénovation énergétique. Et la réponse qui m'a toujours été apportée, c'est que ça, c'est pas possible. Mais cette réponse-là, en vérité, elle est dictée par l'industrie de la rénovation, l'industrie du bâtiment, qui n'est pas du tout prête à ça. Et l'une des recommandations des citoyens de la Convention citoyenne pour le climat a été de rendre la rénovation énergétique obligatoire. Donc, un citoyen bien informé, parce qu'aujourd'hui, il y a un problème, il y a une asymétrie dans l'information. Les citoyens ne sont pas bien informés de la situation, de ce qui va se produire produire, de ce qu'on risque de subir très rapidement. Mais un citoyen bien informé, c'est un citoyen qui prend une décision qui va dans le sens de se protéger. Et ça, c'est tout à fait normal. Et c'est ce dysfonctionnement-là que l'on vit, moi, de mon point de vue, je le situe à partir de la crise de 29 aux États-Unis. En fait, on est encore en train de vivre la conséquence de la non-résolution de façon démocratique de la crise de 29, sauf qu'on vit ça au niveau international.
Lucille Schmitt, finalement, est-ce que les démocraties sont adaptées? Alors, vous avez commencé votre propos en disant que les démocraties, ce n'est pas uniquement les élections, mais c'est quand même beaucoup la politique. Est-ce que les démocraties actuelles, donc qui sont malgré tout élues, et tant mieux, sont adaptées au changement climatique? Je vais citer Al Gore, ancien vice-président américain, figure du combat pour le climat, qui avait dit à Bill Clinton, ancien président américain aussi, que, je cite, « le minimum d'action scientifiquement nécessaire pour combattre le réchauffement de la planète dépassait largement le maximum politiquement faisable pour ne pas perdre les prochaines élections ».
Oui, c'est très intéressant, cette idée d'être prêt à perdre les élections. C'est pour ça que moi, je dis régulièrement qu'il nous faut aussi une nouvelle sociologie du pouvoir. C'est-à-dire que, je vais peut-être dire une chose, mais ça rejoint un peu ce que dit Amina Sadaï, c'est-à-dire qu'on dit c'est impossible parce qu'on raisonne dans la boîte. Mais si on raisonne out of the box, en très bon français, je pense que le sujet, c'est d'imaginer des hommes et des femmes politiques qui soient prêts à perdre la prochaine élection. Et qui Non, mais attendez.
On est de moins en moins dans cette optique-là.
Peut-être qu'on est de moins en moins dans cette optique-là, sauf que s'il y a une multiplication des inondations et des catastrophes qui est le sujet aujourd'hui, peut-être que, du coup, le peuple, les électeurs, vont commencer à raisonner eux aussi différemment sur le type de personnes qu'ils veulent élire. Moi, j'ai été élue locale. Et je vois bien aujourd'hui comment la sociologie des élus est d'abord déterminée par une forme de clientélisme et de court-termisme. Voilà. Sauf qu'à partir du moment où les choses changent, à partir du moment aussi où les jeunes votent, à partir du moment où la mobilisation est possible, je crois qu'on peut arriver à avoir d'autres personnes qui puissent faire de la politique. Le sujet, c'est l'élargissement de l'envie de faire de la politique. Si on garde les mêmes dirigeants, et je voulais insister là-dessus parce que vous dites, est-ce que les citoyens sont prêts à... Je crois que le sujet, c'est plutôt, est-ce que les dirigeants sont prêts à... Moi, j'inverserais donc la charge de la responsabilité. Et donc, quand je dis qu'ils sont prêts à ne pas être réélus, bon, au niveau national, c'est une chose. Sur le plan local, parce que peut-être qu'il faut aussi être plus clair sur la façon dont aujourd'hui les choses partent entre guillemets du bas. Et je dis le bas sans aucune connotation morale. Il me semble que lorsqu'on est au plus près de la géographie, lorsqu'on est au plus près d'une terre inondée, d'une côte érodée, d'une montagne qui n'a plus de neige, d'une rivière qui va sortir de son lit, le cours va être multiplié par 10 en quelques minutes. Vous savez, quelque chose se passe chez les élus locaux et la population, et là, il y a une communauté, d'une certaine manière, qui est prête à comprendre ce qui est en train de se passer. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand on est à l'Élysée ou à Matignon, on vit dans une bulle, et que d'une certaine manière, on est protégé de la géographie, on est protégé des fins de mois, et on est protégé de trop de choses. On n'est pas aux îles Tuvalu, et il faudrait d'une certaine manière qu'un jour ou l'autre, on soit comme ces dirigeants, vous savez, de ces États insulaires qui se filment en train d'avoir l'eau qui monte progressivement jusqu'au cou.
Mais c'est intéressant que vous citiez l'exemple français, parce que la France, évidemment, elle n'est pas exempte des conséquences du changement climatique. Le nord de la France, en quelques mois, a été, certains endroits, inondés à 3 reprises. Donc les erreurs ont été reproduites. Et finalement, quand on voit... et je commençais mon propos dans cette émission par ceci, Laetitia d'Espagne se faire envoyer de la boue, des insultes, on peut se poser la question de est-ce que c'est pas finalement la population qui va renverser la démocratie, puisqu'on pose la question de est-ce que les catastrophes climatiques menacent la démocratie, mais est-ce que c'est pas la population qui va renverser ces démocraties en s'insurgeant contre justement le manque d'action climatique. Mais je vais poser aussi là cette petite phrase, Donald Trump vient d'être réélu à la Maison Blanche. Climato-sceptique. Yemina Saeb.
Eh bien, il a été réélu par le vote des Américains, oui, des citoyens américains.
Ça montre que la prise de conscience qu'on évoquait, elle n'est pas unanime.
Bien sûr qu'elle ne peut pas être unanime. Là, si on reste, je pense qu'on ne peut pas du tout comparer la situation américaine à la situation en France. Mais ce que je pense qui va probablement se produire avec la multiplication des dégâts causés par le climat, où le climat joue un rôle important, c'est que les citoyens ils vont être de plus en plus nombreux à se saisir de la question parce que c'est leur avenir, en fait. C'est leur vie. Ce sont des vies qui sont détruites à Valence. Et là, ils vont imposer aux politiques de changer. Et ils vont imposer qu'il y ait cette participation. En fait, moi je vois plutôt un partage collégial, une gestion collégiale de la situation. Aujourd'hui,
l'élection de Donald Trump va complètement à l'inverse de cette logique-là. C'est la première puissance du monde, les États-Unis.
Ouais, c'est
en plus un pays, pour le coup, qui est vulnérable au changement climatique.
Oui, mais les zones... je sais, c'est pour ça que je dis...
C'est
une démocratie. C'est une grande démocratie, les États-Unis. Si seulement on est dans la situation où les démocrates n'ont pas été à la hauteur, ils n'ont pas répondu aux besoins des classes populaires. Pendant 4 années, ils ont été complètement out, en fait, les démocrates. Ils sont restés dans leur bulle. Et le résultat, c'est qu'à nouveau, les Américains votent pour Trump parce que c'était beaucoup plus séduisant. Le discours de Trump était beaucoup plus séduisant pour les classes populaires aux États-Unis que le discours de la candidate démocrate. C'est ça qui s'est produit, en fait. Ce n'est pas que le peuple laisse tomber la démocratie, c'est que c'est les dirigeants qui se sont déconnectés du peuple. Et la démocratie, c'est quoi ? C'est normalement la gestion de la cité, la gestion ensemble. C'est comment vivre ensemble. Et ça, on ne le fait plus. Enfin, nos représentants ne le font plus.
RFI, le débat du jour, Romain Ozoui.
Les catastrophes climatiques menacent-elles les démocraties ? La question qu'on pose ce soir, en écho évidemment aux catastrophes qui ont eu lieu en Espagne. La mort de plus de 200 personnes dans la région de Valence, précédemment des inondations en France, en Allemagne. Et évidemment, l'élection de Donald Trump à la Maison-Blanche interpelle mes trois invités. Yamina Saeb, que l'on vient d'entendre, est experte internationale des politiques d'atténuation du changement climatique au cabinet d'études OpenExp, enseignante à Sciences Po Paris et l'une des autrices du rapport du GIEC sur l'atténuation du changement climatique. Lucille Schmitt, essayiste, cofondatrice du think tank La Fabrique écologique. Et Nathanaël Vallenhorst, professeur à l'Université catholique de l'Ouest, docteur en sciences de l'environnement et de l'éducation. Nathanaël Vallenhorst, est-ce que vous pensez que la réponse, elle doit venir, elle viendra face à l'inertie politique de la part des démocraties, du peuple ?
Dans tout ce qu'on se dit là, moi, j'ai l'impression que ça soulève un vrai problème, c'est qu'on a un problème dans le rapport au savoir. Et notamment dans le rapport aux savoirs scientifiques qui sont aujourd'hui en fait la seule médiation dont on dispose pour être en prise avec le réel. Parce que le problème avec les catastrophes naturelles, c'est qu'on a quelque chose de très sensible qui nous laisse peut-être croire à tort qu'on comprend quelque chose du dérèglement climatique contemporain. Mais le dérèglement, fondamentalement, cet emballement du climat et cet effondrement des écosystèmes de la biosphère, il reste encore très largement insensible à nos sens. Et pour le comprendre jusqu'au bout, on a besoin de la médiation des savoirs scientifiques. Et aujourd'hui, les savoirs, ils sont où ? Ils sont dans des bibliothèques en poussiérie, dans des rapports absolument passionnants du GIEC, mais qui font 10 000 pages. Et un enjeu, d'une certaine façon, c'est les faire passer dans nos tripes. C'est-à-dire que les savoirs, on les porte en nous, d'une certaine façon, au risque que, bien sûr, ça nous fasse vivre quelque chose de l'ordre d'une déflagration existentielle.
Il n'y a pas suffisamment de médiatisation de la menace écologique aujourd'hui ?
Alors, pas de la menace écologique, parce que... Mais fondamentalement, des savoirs, c'est-à-dire d'une compréhension précise, scientifique, de ce qui se passe. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? La politique, elle s'est définie comme l'instance qui définit le réel contre la fatalité des dieux ou de la nature depuis 2000 ans. Et donc la politique, c'est l'endroit où on croit définir le réel. Or, le réel, il s'impose à nous aujourd'hui dans toute sa violence et ça ne va cesser d'être de plus en plus intense au fur et à mesure qu'on va s'enfoncer dans le 21e siècle. Et il s'agit d'apprendre à redéfinir la politique à partir du réel, c'est-à-dire à apprendre à voir le monde, la société, les grands enjeux, culturels, sociaux, éducatifs, etc., à partir de la matière, à partir, voilà. Et à cet endroit-là, il nous faut pouvoir avoir les yeux en face des trous et on n'a pas d'autre moyen que la médiation des savoirs scientifiques. Et donc, c'est vraiment un endroit, je trouve, où il y a un déficit de formation, de compréhension qui est vraiment abyssal et qui fait que, en tout cas, c'est assez impressionnant de voir même en France le spectacle que nous donne à voir l'Assemblée nationale, combien les débats ne sont pas à la hauteur des enjeux et combien les faits, combien on n'arrive même pas à se mettre d'accord sur les faits d'une certaine façon. Et quand on n'arrive pas à se mettre d'accord sur les faits, le spectre totalitaire apparaît et on sort du giron démocratique.
Lucille Schmitt, est-ce que les autorités sont dépassées par l'enjeu climatique aujourd'hui ? Encore une fois, quand on voit qu'il y a eu à 3 reprises dans certaines localités du nord de la France les mêmes inondations, quels dysfonctionnements ont conduit au drame espagnol ?
Je pense que ce qui se passe, moi j'ai une formation de haut fonctionnaire et j'ai observé depuis une trentaine d'années une dissociation croissante entre les politiciens et, je dirais, l'administration au sens de l'expertise et de la capacité aussi à organiser les politiques publiques. Vous savez, on est quand même dans un monde où, effectivement, comme le disait Nathanaël, on est avec une Assemblée nationale où c'est l'hystérie, et en plus l'hystérie filmée, ce qui est un problème. C'est comme si le monde politique était en fait une sorte de série, vous savez, un feuilleton Netflix. C'est comme House of Cards en vrai. Et donc ça, ça veut dire que du coup, la révérence, la dignité du monde politique, elle a disparu. Donc ça, c'est un premier point. Ça ne veut pas dire que les administrations, les experts, on peut parler effectivement des chercheurs, mais on peut parler aussi des hauts fonctionnaires ou des fonctionnaires tout court d'ailleurs, qui ont des connaissances et qui sont capables de fournir un diagnostic. Mais le sujet, c'est ensuite de passer du diagnostic à la réalité de l'action. Et c'est pour ça que je parlais de ça tout à l'heure, parce que l'action, la décision, dans une démocratie, effectivement, ça relève de ceux qui sont élus. Alors, on peut la préparer lorsqu'on est fonctionnaire, on peut conseiller lorsqu'on est scientifique, chercheur, mais il y a une responsabilité qui est celle de décider. Et lorsqu'on voit à l'échelle nationale ceux qui sont en charge de la décision, on a parfois peur. Quand on voit à l'échelle locale ce qui se passe, il y a un vrai sujet de coordination. C'est-à-dire que la situation espagnole, c'est une situation qui existe aussi en France. Entre l'intercommunalité, la petite municipalité, la région, la capacité à se coordonner entre les différentes échelles est souvent beaucoup trop faible, même si la France a en revanche une certaine tradition d'urgence par rapport aux catastrophes qui est meilleure que celle de l'Espagne, je tiens à le dire. Mais ça ne signifie pas qu'on pourra empêcher les épisodes climatiques de se reproduire. On ne pourra pas lutter contre les pluies. Et quand on a entendu, en fait, le Rassemblement national et un certain nombre de personnes plutôt extrémistes et climato-sceptiques dire que c'est parce qu'on ne curait pas, en fait, les canaux qui permettent l'écoulement de l'eau dans le Pas-de-Calais, et quand on a entendu aussi le président de la région, Xavier Bertrand, dire que ce n'était pas l'artificialisation des sols qui avait causé la catastrophe, c'est un problème. C'est-à-dire qu'on a, y compris dans un langage commun de certains grands élus, qui par exemple peuvent aspirer à se présenter à la présidentielle, du climato-scepticisme larvé. Mmh. Ça, ce n'est pas possible. Et dans ce cas-là, ce qui est important aussi, c'est que ceux qui sont chercheurs, ou pas chercheurs d'ailleurs, mais ceux qui ont des convictions, puissent en permanence développer aussi des capacités de riposte. On doit se battre dans l'espace public en ripostant en permanence quand une phrase climato-sceptique est dite. Il faut combattre. Mmh. Mmh. Et je crois que ce qui est important, je voulais insister là-dessus, c'est que la démocratie, ce n'est pas seulement la liberté, c'est aussi le combat. Mmh. Et il y a une grande tradition de contre-pouvoir chez les écologistes politiques, qui est une tradition très importante. Alors, on l'a vu autour des zones à défendre, on l'a vu dès les années 70 autour des combats contre l'installation des industries nucléaires. On peut penser ce qu'on veut de ces combats, mais en tout cas, il y a eu là développement d'une contre-expertise. Ouais. Et par exemple, par rapport à la question des savoirs et des rapports poussiéreux, moi, je ne suis pas d'accord, en fait. Je pense qu'il y a des savoirs citoyens, je pense qu'on est un pays de sciences citoyennes, et je pense qu'on est un pays dans lequel le dialogue entre les chercheurs et les citoyens est très actif. Ouais. Simplement, c'est les politiques ne le savent pas et n'ont pas envie de le savoir.
Je voudrais qu'on en arrive au mot de la fin, mais justement, quelle réponse on a, Yamina Saed, quelle réponse on peut donner face à ces démocraties, justement, qui ne font pas suffisamment face au changement climatique? Est-ce qu'on peut les sanctionner, mais comment, qui ?
Alors, il faudrait que nous soyons nombreux à nous réapproprier notre citoyenneté. Et la réappropriation de la citoyenneté, pour moi, la démocratie, ce n'est pas juste le bulletin de vote une fois tous les 5 ans ou une fois tous les 4 ans. C'est tous les jours qu'on est citoyen, qu'on doit redevenir citoyen. Or, en fait, on n'est plus des citoyens depuis longtemps, on est juste des consommateurs. Et il faut sortir de cette logique de consommateur, redevenir citoyen. Et c'est là qu'on va pouvoir parler du contrat, reparler ou redéfinir le contrat social nécessaire pour le 21e siècle, étant donné la crise écologique que nous vivons.
Et la crise climatique dans les démocraties est un symptôme finalement des crises qui touchent les démocraties aujourd'hui. Évidemment, elles sont multiples, elles ne concernent pas que le climat. Merci beaucoup à vous trois d'avoir répondu à cette invitation du débat du jour. Yamina Saeb, experte internationale des politiques d'atténuation du changement climatique au cabinet d'études OpenExp, enseignante à Sciences Po Paris. Lucille Schmitt, merci. Essayiste, cofondatrice du think tank La Fabrique écologique. Et Nathanaël Vallenhorst, professeur à l'Université catholique de l'Ouest, docteur en sciences de l'environnement et de l'éducation. À 18h58 ici à Paris, c'est la fin de ce débat du jour. Florence Ponce à la préparation, Claude Battista à sa réalisation. Dans une minute, ce sera le grand journal du soir avec Adrien Delgrange, puis notre session d'info, et puis Afrique Soir, ça ce sera avec Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie.
Bonsoir Romain.
Dans 30 minutes, quel est le programme Sylvie ?
Nous parlerons de la Tunisie, la condamnation des peines de prison de plusieurs influenceurs pour notamment mauvaise influence sur la jeunesse soulève une vive émotion, les internautes dénoncent une entrave à la liberté d'expression. Nous irons au Mozambique où la police a empêché la grande manifestation de l'opposition. À Maputo, l'opposition qui conteste toujours les résultats des dernières élections. Et puis des heurts ont éclaté entre manifestants et forces de l'ordre. Nous reviendrons encore sur la libération de deux avocats burkinabés. Ils avaient été enlevés en octobre sur la route Ouagadougou-Bobo-Dioulasso. Et puis dans le nord du Congo-Brazzaville, le début de la saison des pluies provoque d'importantes inondations. Ainsi, de nombreux villages qui se trouvent le long de la rivière Ubangui sont confrontés à la montée des eaux.
Et ça rejoint le débat que l'on vient d'avoir. Merci beaucoup Sylvie Berruy. Restez à l'écoute de RFI dans 30 secondes. Le grand journal du soir à la une, un incident diplomatique entre Israël et la France. Ce sera l'objet de notre dossier dans cette édition. Restez à l'écoute de la Radio Mondiale.